qui commande, que nous le voulions ou pas, le sachions ou non, notre rapport avec le monde, nous-mêmes, toutes les choses. Et eh bien, la langue dont nous sommes les légataires, dont François rappelait tout à l'heure qu'elle a pris approximativement la physionomie qui est la sienne au XIVe siècle, mais qui a tardé infiniment avant de faire l'objet d'une connaissance réfléchie qu'on pourrait qualifier de vraiment adéquate. Je pense que jusque vers 1913 ou 1914, les gens qui parlaient français et qui le parlaient très excellemment n'avaient qu'une conscience imparfaite de l'instrument dont ils usaient avec cette excellence, parce que la langue n'avait pas été encore constituée comme un objet de science. Je pense que tous les linguistes sont d'accord pour considérer que c'est à partir de 1912-1913, non pas en France, mais en Suisse francophone, qu'un linguiste génial considère enfin les choses verbales pour ce que très vraisemblablement elles sont, ou du moins adopte vis-à-vis d'elles un point de vue qui les rende intelligibles selon des critères qui sont ceux de la scientificité. Et donc, une fois qu'on sait ça, on peut prendre toutes sortes de libertés et aller à saut et à gambade, ce qui peut gêner un garçon comme François, qui a une formation scientifique très rigoureuse. Je répondais juste, François, mais je vais aussitôt après revenir à...
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à 29 ans, tout d'un coup, tu passes à la littérature, toi qui étais dans la philosophie, dans la grammaire,
dans l'abstraction. Parce que toutes les choses qui s'étaient produites dès l'enfance et jusqu'à cet âge, qui est déjà canonique, enfin un homme devient à peu près homme vers 30 ans, 35 ans. Je ne sais pas ce qu'il en est des dames, elles ne nous l'ont jamais trop véritablement dit. Mais je trouve que les dames, sous ce rapport-là, gardent dans leurs mains délicates et serrées un certain nombre de secrets et qui n'ont pas encore été rendus publics. Astures, comme aurait dit Montaigne. Alors qu'inversement, un type comme William Faulkner, que François Bon et moi-même et quelques autres affectionnons tout particulièrement, dit quelque part, oui, les hommes, ouais, vers 40 ans. Les femmes, elles savent tout dans le ventre de leur mère, dit-il un ton plus bas. J'ai regardé longtemps, comme j'y étais là encore voué par le grand passé dont nous sommes chargés, parfois accablés. J'ai regardé ma prime expérience comme essentiellement inintelligible. Et ceci pour la raison toute simple que ceux qui étaient adultes lorsque mon frère et moi étions enfants ne semblaient pas y avoir un accès plus clair que le nôtre. Et puis nous est arrivé ce qui a été sans doute le destin de la génération à laquelle nous appartenons. Nous sommes partis. C'est les gosses nés à partir du début de la deuxième moitié du XXe siècle qui font l'expérience massive de l'exil. On part.
On est deux à se méfier parce qu'on sait par cœur les
numéros. Oui, bien sûr. Mais
bon, on le sait.
Je me sens étroitement tenu d'un côté par François et de l'autre par mon frère. Mais c'est qu'ils sont venus après. On est parti et un certain nombre de choses qui nous paraissent.
1950, je m'excuse, je l'embête exprès parce que sinon. 1950, vous savez tous que l'événement mondial, la bascule universelle qui révolutionne complètement, c'est l'arrivée de la première station-service à Brive-la-Gaillarde.
Entre autres, oui, entre autres, mais...
Voilà avec quoi monsieur fait un livre.
Oui, pardonnez-moi, c'est un détail extrêmement important, parce que les routes s'ouvraient. Mon frère pourra me confirmer dans ce que j'avance là. Nous avons vécu dans l'équivalent d'un mouchoir de poche pendant une sorte d'éternité. Et le monde ne s'est ouvert que très tardivement lorsque
paraît. Je le recoupe encore exprès.
Je t'en prie, François.
Vous remarquez qu'il dit nous, le grammairien. C'est-à-dire nous avons vécu, c'est-à-dire Pierre vit depuis la préhistoire.
D'une certaine façon, oui. Nous sommes les derniers d'un âge très ancien qui continuait de peser sur nos esprits et nos âmes et nos cœurs. Mais nous sommes aussi les premiers à avoir bénéficié de cette ouverture au monde, à la fois le monde matériel, partir en voiture, en train, et s'ouvrir à un certain nombre de pensées qui n'avaient jamais eu la possibilité de pénétrer jusque dans les étroits où nous étions cantonnés. Or, voir les choses autrement, c'est à quelques degrés se soustraire à leur tutelle. On peut se faire mille idées d'une seule et même chose. Les révolutions scientifiques, les révolutions mentales, les révolutions personnelles ou collectives sont d'abord et avant tout liées au fait qu'on prend sur les choses de toujours un biais différent qui nous révèle une face d'elle qui nous demeurait obscure. Et on se dit, mais peut-être bien qu'elles ne sont pas inévitables, peut-être bien qu'on peut rompre les chaînes dont on a cru qu'elle devait peser toujours sur nous en vertu d'une fatalité qui ne nous avait jamais dit son nom. C'est une expérience historique. Enfin, je l'ai perçue comme telle. Et entre autres choses, elle permettait de faire retour sur une expérience qui demeurait inintelligible à ceux qui en étaient pourtant les agents ou les patients, enfin les objets, et lui demander des comptes. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu l'audace criminelle, peut-être, de porter la main sur les arcanes, c'est de prendre un bout de papier, une plume et dire c'est peut-être ça. Peut-être, parce qu'en cette matière-là, il n'y a jamais à aucun moment de certitude. François. Voilà. Mais j'aurais plein de choses à dire sur le caractère symétrique et opposé de l'expérience qu'a faite le jeune homme là qui est sur ma gauche.
Mais non, ça va. Donc l'histoire, en fait, il y a la préhistoire.
Oui.
Il y a ce brave curé Ozési.
Oui.
Qui est ton cousin qui met ça au jour.
C'est un homonyme. On n'est pas parenté. C'est un pur homonyme.
Et la guerre de 14.
Oui,
et 1950.
Et 1950. Bon,
est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, ce qui est complètement étrange, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre plus contemporaine que la tienne, parce que sinon, ça nous tomberait des mains. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'un gars qui vient nous parler de la préhistoire, qui vient nous parler de ça, que la vie est complètement différente dans le Lot et dans la Corrèze, et qu'en même temps, quand chaque fois, le point d'appui, c'est précisément sur cette violence qu'exerce la normalisation du monde aujourd'hui.
Oui.
Il y a toujours ce point de départ.
Oui.
Aussitôt dans le livre, tu l'oublies.
Je ne l'oublie pas. Je
reste 1914.
Les grandes commotions, la fin de la paysannerie traditionnelle. Si on est ici, c'est parce qu'on n'a pas les mangerons de la charrue entre les mains et que, par suite, ces vieux pays se dépeuplent, s'en retournent au désert. Un monde est mort, enfin, de toute évidence, toute une civilisation s'en est allée sous nos yeux en l'espace d'une génération et demie à peine. Mon frère et moi avons entendu jargonner autour de nous dans le patois d'Oc, le vieux patois d'Oc, la langue de Bertrand Born, ce qu'on appelait les troubadours. Il était naturel, normal, évident, il allait de soi que tous les mardis et tous les samedis, la petite paysannerie des environs qui parlait une langue que déjà nous ne comprenions plus, s'avance poussant ses bêtes jusqu'au centre-ville. Et puis un beau matin, si je puis dire, j'ai quelqu'un que j'aime bien qui est dans la pièce qui porte ce nom, eh bien, ceux qui étaient le foirail depuis le néolithique, depuis la Gaule romaine, étaient goudronnés, des places peintes à la peinture blanche et des chevaux mécaniques ont pris la place des bœufs virgiliens. On a vu ça de nos yeux. Ça a été une révolution. On était les premiers de notre lignée à oser se hasarder sur les glacis du monde extérieur, non pas pour y périr, ce qui avait été la règle jusqu'alors. Les hommes étaient mobiliés tous les 25 ans. Ils allaient crever au loin, généralement dans l'Est ou dans le Nord. Mais pour apprendre.
Que tu portes toi-même via le mutisme de ton père ou le deuil de ton père?
Oui, mon grand-père a disparu en 17. Mon grand-père paternel a disparu en 17 et mon père a mangé la consigne. Je veux dire que lorsque un chaînon vient à manquer, un certain nombre d'instructions, d'éclaircissements disparaissent par le feu. Et je pense qu'il n'est pas jusqu'au plus infime mouvement dont nos âmes soient agitées qui ne témoigne de l'emprise du vaste monde sur chacune de nos périssables personnes. Nous sommes des êtres historiques de part en part. Il n'est rien en nous qui n'atteste l'existence d'un événement antérieur ou d'une infinité d'événements antérieurs dont les uns sont connus et les autres pas. Sous ce rapport, la littérature peut s'apparenter un peu à la psychanalyse. On reprend un récit qui a été oblitéré, oublié, censuré, et lorsque les mots enfin viennent à résonner, à être articulés, alors subitement les noires puissances qui étaient comme embusquées derrière le silence disparaissent. Et à ce titre, on n'est plus libre. C'est en cela qu'il me semble qu'écrire des livres est non seulement une révélation, mais une libération. Ce n'est pas seulement qu'on sait cela, il y a des savoirs inutiles. Non, non, c'est un savoir qui est libérateur, qui a pour effet qu'on est moins les choses dont on était corseté. On a plus d'air et d'aise, on va d'un pas plus ferme, on est au pays de Descartes. On se gouverne mieux dans cette vie. Ici, a vécu, respiré pendant un temps, du moins...
Descartes.
Un des esprits les plus libres, le cavalier Descartes, pour paraphraser Peggy, se libérer. Et la littérature a à voir avec toutes ces activités de l'esprit qui portent au jour, qui tirent au clair des choses qui, sans cela, resteraient à l'abri de l'ombre, où elles ont beau jeu alors de peser sur nous et d'empêcher que nous ne soyons, sinon ce que nous voulons, du moins ce que nous aurions pu. C'est cela, d'un seul coup, il y a une phrase de Marx qui est magnifique, les crétins ruraux. Ouais, bon, il y a le crétinisme rural, il dit, toute cette partie de l'humanité est encore ensevelie dans les ténèbres du crétinisme rural. Notre vouloir singulier n'a pas tellement de poids lorsqu'on appartient à une région, à un groupe qui est défini par son horizon socio-professionnel, ou pour parler vulgairement, par la part du revenu collectif qu'il peut s'attribuer. On ne peut pas former de certaines pensées, de certaines aventures qui nous sont interdites. Or, brutalement, la République, la fin de la quatrième, qui était bonne fille, a permis que des crétins ruraux, qui jargonnaient pas toi, deux, trois générations de là, accèdent au français, la langue de l'Île-de-France, la vôtre, la pureté du français de la Touraine, et voient de leurs yeux des pensées dont ils ne soupçonnaient pas qu'elles aient pu germer dans les cervelles humaines. Donc, à ce moment-là, tout était possible. À commencer par le fait de faire retour sur cette part de ténèbres dont nous étions les légataires et de les dissiper afin d'être les contemporains de notre temps et non plus de vivre, comme ça avait été le cas jusqu'à nous, non compris, au XIXe siècle, sous l'Ancien Régime, sous la Gaule romaine, au Néolithique ou au Paléolithique inférieur. Rien de moins, rien de plus, mais rien de moins.
Ces deux hommes, ils sont mariés, pères de famille. Moi, je suis là pour faire le fou, donc...
On peut faire les fous, François.
Ils ont une tradition depuis des années. Une fois par an, ils se font une échappée tous les deux. Ils emmènent un énorme rouleau de sacs poubelles. Ils débarquent dans une ville de province et ils font tous les bouquinistes. Et chez les bouquinistes, ils récupèrent des livres que nous, on n'achète jamais. Il y en a un qui prend tous les manuels d'orthographe depuis 1700 et l'autre tous les manuels de grammaire.
Bien avant. Oh, bien avant, François. Les incunables.
Par exemple, dans la maison de Pierre, il y a un énorme bureau. J'ai toujours été jaloux de son bureau, c'est magnifique. Il y a une magnifique table. Et tout autour, d'abord, il y a tous ses écrits enfermés dans les placards. C'est-à-dire qu'on connaît l'œuvre, apparemment, c'est peut-être le dixième ou le centième de ce que tu as gribouillé.
Pas le centième.
Et au-dessus, dans cette pièce-là, il n'y a que la philosophie, la grammaire. Dans la pièce à côté, il y a les livres de voyage, les livres concernant la mécanique, les livres concernant la chimie. Dans une troisième pièce, il y a les livres concernant les sciences naturelles, la géologie, les insectes. Je ne vous parle pas des caves, parce que la maison a tout un sous-sol, mais bon, ça ne nous concerne pas.
Si, c'est la littérature.
Il y a les collections d'insectes. Voilà. La poésie, le roman ont disparu. Et Pierre, dans cet univers comme ça de trois pièces gigantesques, où les livres sont partout, pour écrire, il va dans une cheminée, parce que c'est le seul endroit où il a le droit de fumer, chez lui, avec une petite écritoire sur ses genoux, et de 4h du matin jusqu'à 6h du matin, il est accroupi dans la cheminée, et il écrit sur cette écritoire-là, sans les livres.
Je me sens tout nu, là.
et quand on lui demande ce qu'il a lu, il dit, ah mais tu ne connais pas Charles Gide ? Pas Gide, l'oncle, l'économiste. On dirait que depuis très longtemps, tu n'as plus besoin de la littérature.
J'en ai moins besoin. La littérature n'est pas tout. Son importance est capitale. Peut-être bien qu'elle seule survivra à la mort des mondes successifs qu'elle a commentés. Bon, de Troie, il ne reste rien. Il reste des tessons de briques. Mais on a l'Iliade et l'Odyssée. Les mondes matériels ont vocation à mourir. Bon, ça, nous le savons. Mais un certain nombre d'hommes qui ne sont plus même que poussière, ont en quelque sorte tendu sur la pointe des pieds quelques feuillets, quelques pages, où, allons-y, l'esprit d'une heure, d'un temps, nous demeure accessible. C'est comme des feux allumés dans les grandes plaines, enténébrées, poussiéreuses de la durée. Et à la vérité, nous y reconnaissons le meilleur de notre humanité. J'ai un certain nombre de divergences de détails avec François Bon et un certain nombre de gens pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais j'ai aussi avec lui, je partage avec lui un certain nombre d'axiomes capitaux. Il y a des livres tels qu'une part essentielle de notre humanité s'y trouve enclose, parce que nous ne sommes pas seulement les êtres du présent, mais que chacun d'entre nous porte, qu'il le veuille ou non, dans sa chair, dans son esprit, dans son langage même, le poids de ce que le philosophe Hegel appelle la grande temporalité, die große Zeitlichkeit. Excusez-moi. Voilà. Et on peut l'ignorer, ça n'a pas tellement d'importance, mais on peut s'efforcer d'en prendre conscience. On peut essayer, si les circonstances, si les conditions le permettent, de se porter en claire connaissance de cause à l'autre des choses, lesquelles tentent toujours à empêcher que nous soyons nous-mêmes libres, sans préjugés, d'aucune sorte. On a eu la possibilité, mon frère, moi, d'autres, toute une génération, de lire, non pas seulement pour ceux que nous étions, mais pour tous ceux qui avaient été avant que nous ne fussions, un parti subjonctif, et qui s'étaient trouvés dans l'impossibilité de lire, soit parce qu'ils étaient illettrés, j'ai épousé une dame, enfin c'est normal, enfin, oui, bon, plus ou moins, j'ai épousé une dame, donc, qui n'a jamais...
Nous étudions la phrase.
Voilà, voilà, qui n'a jamais bougé depuis des siècles, de l'endroit où elle a vu le jour, lorsque c'est tel moment, et qui dispose de pièces d'archives qui remontent jusqu'au tout début du VIIe siècle, sur parchemin, des pièces d'archives 1603-1604. Je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça. Et pourtant, j'avais une... Tu ne vois pas pourquoi j'ai raconté ça.
On va parler de l'héritage. C'est pour ça qu'on a voulu que Gabriel soit...
Je le sais. Pardon, excuse-moi, François. On a donc les contrats de mariage. Jusqu'en 1886, les femmes signent d'une croix. Ça fait un peu plus de 100 ans. Les hommes signent de leur nom. Et il faut voir comment ils signent. Des grosses pattes malhabiles qui ont un mal de chien à tracer les caractères alphabétiques. Ils ne sont pourtant que 26. Les femmes, jusqu'en 1886, signent d'une croix. Voilà. Donc, on lit pour eux, tous ceux qu'ils auraient pu... François Bon fait allusion à l'histoire naturelle. Bon, j'ai un goût pour l'histoire naturelle. Je me suis procuré, pour pas cher, aux enchères, le Buffon intégral. Bon, Buffon, c'est le XVIIIe siècle. Je veux dire que ceux que j'ai été dans des vies antérieures, à supposer qu'ils aient eu le désir de connaître l'éléphant, par exemple. Je ne sais pas si vous avez lu l'éléphant de Buffon, c'est merveilleux. Buffon était très fier, il se le faisait relire à la fin de sa vie par son secrétaire. Il avait les yeux qui s'embuaient légèrement, et lorsque le secrétaire avait refermé le gros in quarto de vos racines ou de chagrin, Buffon disait, voilà un morceau de la plus haute éloquence. Voilà. Bon, Buffon, ceux dont je descends n'ont pas pu lire Buffon quand c'était le moment, parce qu'il lettrait analphabète et qu'à supposer qu'il ne l'ait point été, je suppose que, comme il vivait en autarcie à peu près pure, il n'aurait pas eu les trois livres tournois qui leur auraient permis de se procurer les 24 tomes de vos racines. Voilà. J'ai le sentiment que je ne suis pas tout seul, que des ombres me devancent, qui continuent de réclamer leur dû du fond des âges de ténèbres et d'oppression où le sort les a placés. Il paraît que je respire, je vis, j'en suis ravi. Je fais le détour par la vie, comme dit le poète anglais. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et j'essaie de récapituler, puisqu'il ne s'est trouvé personne avant moi, pour me dire, tiens, prends tous les bons bouquins, ils sont là. T'as qu'à te servir, ils n'étaient pas là. Voilà pour expliquer les surprises, les stupéfactions et les bonnes blagues dont me régale mon vieil ami François.
Alors, on va y aller des bonnes blagues. Voilà, par exemple, des choses qui, pour nous, qui sont très... Pour introduire aussi Gabriel, qui sont... Un des livres de Pierre s'appelle La Mue. Je ne sais plus quelle année c'était.
Ça a 15 ans, oui.
15, 96.
Avant, 89 ou 90.
D'accord.
Tu peux me croire.
Signe comme ça, on est dans la surface du monde. On est, voilà, par exemple, une discussion un soir dans une turne de classe prépa déserte. Le littéraire, le cagneux, discute avec un scientifique.
Un taupin.
Comme ça.
C'est comme ça qu'il s'appelait.
Et tous les deux se trouvent au bout de la nuit à avoir discuté de philosophie, des étoiles et du ciel sans s'apercevoir que la nuit a passé. À travers ce rapport au temps comme ça a placé dans la singularité du savoir, à quoi ça sert d'être en classe prépa, et donc dans cet ancrage au monde contemporain, commence à s'ébaucher le portrait du père de Pierre et Gabriel. Et puis, leur père décède, la mue s'arrête complètement... Boum, le livre s'arrête sans fin, et tu reviens 2 ans après avec un livre qui s'appelle L'Orphelin, ou qui commence avec une image terrible de ce père amaigri dans ses derniers temps, et le fils le saisit dans ses bras pour le porter, le soulever d'un fauteuil. Et Pierre creuse cette image comme il le fait, il part toujours d'une petite image comme ça qu'il explore pendant 130-140 pages. Et la question pour nous, c'est-à-dire aussi ça, c'est-à-dire comment un proche, un frère, peut accepter de voir mise en livre quelque chose qui est de sa propre expérience. Et puis, un éditeur leur propose précisément ce travail, L'Héritage, ça s'appelle, il est dans le bureau de Bernard, il est chez moi, on va monter le chercher. Pierre, Gabriel reprend la totalité de l'œuvre écrite de Pierre et les met en confrontation avec dire non, c'était pas exactement comme ça, c'était... Comment ça vous est venu, cette explication sur la source autobiographique d'un travail littéraire? Et la question qui est sous-jacente, c'est est-ce que si tu as choisi de travailler sur toutes ces langues de Guyane et d'Afrique, c'était pour fuir celui qui est entre nous deux?
Je il y a des questions. Donc la première, c'est sur, je pense qu'on a tous la même expérience, c'est que lorsqu'on vit avec quelqu'un, que ce soit des parents, bon, des frères, c'est sûrement plus proche en tout cas, des conjoints ou autres, au bout d'un certain temps, quand on récapitule les événements, on s'aperçoit qu'on n'a pas réellement le même vécu. Mais ce qui s'est passé ici est quand même très particulier, parce que comme Pierre l'a écrit et que j'ai tout lu, à force, je finis par croire que j'ai vécu comme il l'a dit. C'est quand même une expérience assez singulière. Et je vois que petit à petit, j'ai plus les mêmes visions des choses. Et je ne veux pas dire qu'elles soient plus vraies que celles que j'aurais eues. Je veux dire simplement que c'est comme ça et qu'il faut en prendre acte. Après tout, vous savez, j'aime beaucoup cette histoire que raconte... je vais retrouver son nom, Gertrude Stein, lorsqu'en 1917, elle se promène avec Picasso dans les rues de Paris, et à un moment donné, il voit passer des véhicules américains qui sont les premiers véhicules qui, historiquement, ont été camouflés. Et évidemment, ils sont très surpris. Jusqu'à présent, les véhicules militaires, on sait à quoi ils ressemblaient. Et Gertrude Stein et Picasso regardent ça, mais ébahis. Et Picasso, qui, on le sait, était quand même un peu plus intelligent que la moyenne, se retourne vers Gertrude Stein et dit « Dire que c'est moi qui ai inventé ça ». Je trouve cette histoire très belle parce qu'au fond, il a d'une certaine manière raison. Il fallait aussi qu'il y ait ce type de regard. Une fois qu'il a été produit, une fois qu'il a été objectivé, matérialisé dans le réel, au fond, c'est lui qui va devenir le réel, dont on se souviendra bien sûr, ou dont on croira se souvenir. Je dirais que de ce côté-là, il y a sûrement quelque chose de ce type-là qui rentre en jeu, en sorte qu'aujourd'hui, je ne sais plus quels sont mes souvenirs, mais Pierre le sait, donc ça va. Le tout, c'est qu'il le dise. Quant à la question de savoir si j'ai fui dans les langues, non, parce que je ne suis pas un bon linguiste dans ce sens-là. Il y a des gens qui connaissent des langues, beaucoup de langues, c'est vrai que ça existe. Moi, pas tellement, même pas du tout. Je ne suis pas un bon linguiste en ce sens-là. Ça m'intéresse beaucoup la différence des langues. Ça, oui, ça c'est quelque chose qui est très fascinant, très attractif. Mais ce n'est pas la même chose de connaître la différence des langues, d'essayer de l'appréhender, de la comprendre, et de parler les langues. Pourquoi cette différence des langues? Oui, il y a sûrement un effort d'arrachement. Je voudrais peut-être dire un mot, oui, il ne faut pas parler de celui qui est au bout, j'ai compris, sinon on a un gage, mais de ce qui a été fait là, sur la grammaire de Pierre. Parce que je crois qu'elle est le type de travail qui a été fait, c'est une façon de rendre justice à ce type de choses. C'est-à-dire que ce qu'a fait Pierre dans cette grammaire, sur laquelle je dois dire je suis en désaccord sur beaucoup de choses, là ça va, on n'est pas dans le souvenir, on est dans le réel, c'est d'essayer de trouver sur une forme de reconnaissance les choses qu'on entend là, on les a tous entendues parce qu'on a tous été scolarisés, parce qu'on a tous appris le français de cette manière-là. Il y a des tas d'autres manières possibles de l'apprendre. Ce qu'a réussi à faire l'équipe ici du théâtre, c'est de montrer que même sur le matériau le plus gris, le plus triste, le plus sinistre, le plus abominable, celui de la grammaire scolaire, on peut faire passer une espèce de parole vivante. C'est un peu ce que fait Pierre dans ses romans, d'une certaine façon. On a l'impression, quand on lit ses romans, de dire que tout ça, c'était déterminé, que c'était joué, qu'on porte le poids de nos morts, que de toute façon, on ne pouvait pas en sortir, etc. Et en même temps, la façon dont il le dit, elle est unique, elle est singulière, elle est vraie, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est d'une forme de vérité. Et ça, je crois que ça, c'est peut-être aussi pour ça que le compte qu'on a réglé, et c'est là que je finirai par répondre à la deuxième question de François, c'est probablement en tout cas un compte avec l'expression, et avec l'expression dans une langue qui n'était pas pour nous une langue, enfin qui était une langue naturelle bien sûr, mais qui n'était pas une langue d'évidence. Pour dire une chose, on parlait tout à l'heure du français, 14e siècle, admettons. Le français a au moins deux caractéristiques extrêmement singulières quand on l'étudie, d'un point de vue historique et en linguiste, les deux en même temps. La première caractéristique, c'est que la France est aujourd'hui le seul pays, à ma connaissance, dans lequel la majorité de la population n'était pas francophone au 19e siècle, et qu'il soit resté un pays uni. C'est-à-dire tous les autres, la Russie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie même, on les a vus éclater les uns après les autres. La France est le seul pays qui a cette particularité, aujourd'hui, ou être, sinon pas éclaté, enfin, ou en cours d'éclatement, comme la Belgique, peu importe. C'est une particularité très étrange, parce que ça veut dire quand même qu'on a fait admettre à des gens non francophones le fait de parler français et de l'accepter. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand on a... Le français, c'est une production comme une autre, on l'a inventé, comme Pierre invente le passé, c'est pas grave, c'est normal, mais c'est une fois qu'il a été inventé, ça devient réel, c'est ça qui est important. Et ce français qui a été inventé, la France est un des très très rares pays dans lequel, quand on a voulu fixer la langue nationale, on est allé la chercher dans la cour, la cour du roi, bien sûr, et pas du tout, quand on a voulu inventer les Slovaques, par exemple, au 19e, on est allé au fond des Tatras en disant où sont les paysans, comment ils parlent, et c'est avec ça le Slovaque. Quand on a voulu faire pareil pour le polonais, pour toutes ces langues qui avaient été écrasées, on allait chercher dans l'endroit où elles n'auraient pas été contaminées par les langues de domination, par la grande culture et autres. Là, en France, on a fait exactement l'inverse. On est allé chercher à la cour une langue qui n'existe pas, qui est une langue complètement artificielle, qui est une langue écrite. L'auteur typique des classes primaires en France, c'est La Fontaine. La Fontaine, c'est un auteur qui est totalement illisible, objectivement. C'est quelqu'un qui écrit dans un français qui est pseudo-archaïque du 17e, il l'a fait exprès pour lui donner ce tour-là. On vit sur un monde du français qui était celui-là. Et c'est cette langue qu'il a fallu assumer. Et bon, ben, je pense que ça peut être des réactions d'être linguiste, que ça peut être une autre réaction de faire des romans, que ça peut être d'autres réactions d'essayer de la tordre d'une certaine façon.
Faire des romans, on va repartir là-dessus peut-être. Il n'y a rien de plus étrange. Enfin, les premiers livres de Pierre sont très narratifs. Il y a toujours y a des personnages, même un personnage central. Ça peut même dans des livres récents, comme Miette, par exemple, cette femme juste entrevue une fois dans une arrière-cuisine, 40 secondes, et on arrive à dresser tout un fil d'enquête pour faire exister ce personnage. Et c'est tout ce fil narratif que tu as déployé dans La Maison Rose, dans L'Arbre sur la rivière, dans C'était nous. C'était nous commence déjà à se fractionner. On dirait que maintenant, depuis presque 7 ou 8 ans, tu n'y reviens plus. Par contre, dans chaque livre, chaque livre est composé avec des pièces de marqueterie, des éléments qu'on a déjà trouvés dans les livres précédents. Est-ce que tu peux parler, qu'est-ce que c'est le mot roman pour toi? Et ce travail qui rend aujourd'hui, qui est à la fois passionnant, mais qui pourrait être considéré comme un obstacle à ton travail, c'est-à-dire revoir toujours les mêmes éléments musicaux repris comme ça, en fugue, réapprofondie, de venir au premier plan. Est-ce que ça t'approche d'un plan d'ensemble?
Je ne sais pas.
Est-ce que tu racontes une histoire?
Non.
Une seule histoire?
Oui. En principe, le roman est mort. Bon, le roman, c'est l'épopée de dégrader la bourgeoisie. Voilà ce que disent les bons esprits. Bon, c'est pas faux. Le roman est mort. Pour une raison toute simple, c'est que sa puissance et sa gloire et son rayonnement ont tenu au fait qu'il n'existait pas de science de la société dont il était le produit. C'est tout.
Bon, pas forcément d'être d'accord.
Je donne la parole. Lorsque la société bourgeoise révolutionnée, où l'argent devient la fin de toute chose, où le calcul rationnel des chances pacifiques de gains pécuniaires. C'est la formule de Max Weber pour caractériser le capitalisme. Elle est excellente, elle est bonne. Mais c'est ça, calcul pacifique. Il y a le capitalisme piraterie, le capitalisme prédateur. Non, le capitalisme rationnel, celui qui s'épanouit en Europe occidentale au début du 19e siècle, c'est un calcul rationnel, avec des mathématiques rationnelles, des chances pacifiques de gains pécuniaires, l'argent. C'est tout. Cela bouleverse très profondément la société française à partir de 1810, 1820, la Restauration, le retour des Bourbons. Mais sans qu'il se trouve d'esprit qui soit en mesure de saisir l'étendue ni la portée de ce qui est en train de se passer. Celui qui dira voilà ce qui se passe, il s'appelle Karl Marx, il a 30 ans, c'est 1848, c'est le manifeste du Parti communiste. Pendant une trentaine d'années, les gens sont devant les choses sans avoir le mot qui leur soit assorti. En raison de l'éternel retard de la conscience sur l'existence. Et le roman va fleurir là. Les grands dinosaures, Balzac, Stendhal, bon, les plus grandes figures de ce qu'on appelle le roman réaliste, trouvent à dire les choses qui se passent en l'absence d'un corps constitué de professionnels stipendiés par l'État, qui, avec des outils appropriés, dirait voilà quelle est la sociologie du monde neuf qui s'est constituée en l'espace d'une trentaine d'années sur les décombres et le fumier de la société d'ancien régime révolutionné. Le drame aujourd'hui est que tout romancier qui prétend pontifier sur les agissements de Nucingen ou de Gobelin est certain de se faire taper dans l'instant même sur les doigts par le corps de spécialistes des sciences humaines et des sciences sociales qui, eux, disposent d'outils scientifiques pour étudier les comportements et dire tel type est caractérisé par tel type de revenu, tel diplôme, et ses chances de profit social sont telles. Et si d'aventure tel n'est pas le cas, ça revêt un caractère d'exception, et dans ces conditions, le roman tout les chances d'apparaître comme irréaliste aux yeux de ceux qui le lisent et par suite de tomber de leurs mains. Je pense que le roman est né de l'absence d'une conscience réfléchie, adéquate, scientifique de la société capitaliste du XIXe siècle. Et à partir du deuxième tiers du XIXe siècle, il est en crise. Et au début du XXe siècle, les meilleurs esprits en France, en Angleterre, en Allemagne, disent il n'y a plus moyen d'écrire des romans. C'est Proust, qu'est-ce que je vais écrire, mon Dieu ? Je ne peux pas, je ne trouve rien. Alors je vais dire que j'ai passé ma vie durant à chercher le thème d'un roman, et puis c'est cette recherche qui va devenir le roman que je ne pouvais pas écrire. En Irlande, à Paris, c'est Joyce. Qu'est-ce que je peux écrire, mon Dieu ? Il n'y a plus rien à écrire. Je vais écrire l'Odyssée, de façon parodique. Et puis un type que nous aimons bien, François Bon, moi, quelques autres, je crois, c'est Kafka. Il n'arrive pas à finir. Aucun de ses grands romans n'est fini. Bon, il y en a deux, trois, le procès, d'accord. Mais les autres, l'Amérique, c'est pas terminé. Le château qui est si resplendissant, c'est pas terminé. Il ne peut pas. S'il conclut, son roman va tomber. On ne peut pas conclure. Il touche à cet instant de destinée de l'Europe, de la planète, on ne peut pas conclure. Donc dès le il y a 100 ans que les meilleurs esprits ont compris que le roman était mort. Donc j'écris pas de roman.
Quand on te téléphone, le mot qui revient toujours, c'est « j'essaye de m'expliquer ».
Ouais. Ouais.
Ces éléments récurrents qui reviennent chaque fois dans tes... Comment...
Parce qu'on est comme des oignons, ou que... Non, pas du tout, surtout pas, non. Les oignons, c'est un tas de peau, et puis quand on arrive au cœur, il n'y a rien, enfin, je crois. Puis, oui, ça fait pleurer, mais les pleurs sont accessoires. Il me semble qu'on progresse jusqu'à... L'homme a cette particularité, je vais faire le prof, là. Alors, j'ai vu un mot qui m'a enchanté, il y a des tas de mots qui... La néothénie, alors j'ai écarquillé légèrement les yeux, qu'est-ce que la néothénie ? Alors c'est l'aptitude qu'on observe chez tous les animaux, le cobra, la hyène tachetée, l'orque, enfin, je prends ceux-là, il y en a d'autres, jusqu'à un âge relativement peu avancé, à marquer une extrême attention pour tout ce qui se présente. On peut apprendre plein de choses à de jeunes animaux. Et puis insensiblement, c'est comme si un couvercle de plomb se refermait sur leur esprit, leur cerveau, leur ouverture au monde. Un corbeau d'un an n'apprendra plus rien. On peut apprendre quelques mots à un corbeau. Alors, mon frère et moi avions un voisin boulanger qui avait appris la Marseillaise à un merle. Alors c'était marrant deux fois, mais quand toute la journée, de début mars à fin juillet, vous aviez le maire qui entonnait les cinq ou six premières mesures de la Marseillaise, ça devenait fastidieux. Bon, c'était les petits talents de province. On a un maire qui siffle la Marseillaise. Mais un maire de deux ans n'apprendra plus la Marseillaise. L'homme est cette espèce pensive qui reste ouverte au monde jusqu'à un âge relativement avancé, si ce n'est jusqu'à la fin. Et je découvre toujours avec une sorte d'horreur que le type que j'étais tout à l'heure, ou hier, ou avant-hier, ou a fortiori, il y a 5 ou 10 ou 15 ans ou 20 ans, avait à peine entamé l'écorce et que le vieux cœur incandescent de la chose lui demeurait inaccessible. Et que les années qui sont ajoutées aux années dans l'intervalle ont permis qu'il creuse un petit peu plus cette espèce d'opaque mystère à quoi s'apparente, si l'on y prend garde, ce que nous appellerons nous aurons appelé sur notre lit de mort nos vies. Alors je reviens à la charge avec l'espoir que le monstre là, qui garde l'entrée du défilé, ou la bouche, la gueule, de la caverne, voudra bien soit se montrer plus exorable, soit reculer sous les nazardes que je lui porte avec un zèle redoublé. Voilà. Mais c'est pas des romans. La forme narrative est indispensable. On ne peut rien raconter sans recourir à la forme narrative qui n'est jamais que l'application aux choses humaines du double principe de consécution et de non-contradiction. C'est tout simple. On fait des phrases et il faut que chaque phrase renvoie non pas seulement à celle qui l'a précédée, et qui a porté en quelque sorte les matériaux dont elle est bâtie, mais qu'elle anticipe sur celle qui suivra. Un récit, en principe, repose sur ce principe de consécution. Sinon, le sens fait balle. C'est comme une cartouche quand les plans sortent. Si vous tirez très près, les plans n'auront pas le temps de partir en arrosoir, là, de se disperser, et ce sera comme une balle, comme un lingot qui sort. Donc il faut monnayer un événement en une succession de phrases. C'est une filière par laquelle tout homme se doit de passer s'il prétend porter dans l'ordre de l'expression, son expérience, qui peut du reste fort bien demeurer enténébrée dans les ultimes replis de son cœur. Et de non-contradiction, encore que certains auteurs et brillants, je pense à Beckett, ne s'embarrassent aucunement du principe de non-contradiction, sachant qu'ils en sont parfaitement conscients, et que cette ignorance feinte produit des effets démultipliés, redoublés, prodigieux. J'essaie de comprendre des trucs, et comme tout homme, Je suis obligé de passer par la filière narrative, la filière du récit, du grand récit. Mais je ne me berce d'aucune espèce d'illusion sur les vertus du roman, qui pour moi est un genre historique qui appartient au passé, alors que le récit semble être transhistorique. Il nous arrive, mon frère et moi, de plaisanter souvent et d'évoquer certains des mythes qu'a rapporté Claude Lévi-Strauss dans ses magnifiques mythologiques. Et il y en a qu'on a du mal à lire sans que des larmes de rire nous montent aux yeux. Alors, Lévi-Strauss est en train d'expliquer, je ne sais plus trop quel événement, les manières de table, peut-être. Il est question de tatous agacés. Vous voyez les tatous, pas ? C'est des bêtes cuirassées d'Amérique du Sud, avec un long nez comme les fourmiliers, mais qui se mettent en boule lorsqu'elles sentent menacées. Et très griffues pour détruire les termitières et les fourmilières dont ces bêtes se paissent. Donc, vous imaginez, je ne sais pas si vous imaginez des tatous agacés. On était là, mon frère et moi, en train de se demander à quoi ressemblaient les tatous agacés, qui vont griffer la face de la lune, qui leur avait dit je ne sais pas trop quoi. La lune dit des trucs au tatou, ça les agace, ils vont lui labourer la figure. Ce qui fait que lorsque vous la regardez, vous voyez nettement que la face de la lune porte un certain nombre de traces que les Indiens, les Tupis, Warani, voilà. C'est des récits. La merveille est que si on est soumis au principe de l'analyse structurale, c'est-à-dire qu'on procède à une lecture du second degré, armée, instruite, savante, on découvre que ça dit tout autre chose que ce que le regard naïf perçoit. Et que devait sentir entre chair et cuir, ces primitifs, ces gens de société sans écriture, qui le soir se transmettaient de bouche à oreille ces récits, qui visiblement plongent dans la nuit opaque des temps, et qui, lorsqu'on regarde le jeu des permutations qui explique toute une série de variations, semble s'étendre, en gros, du détroit de Magellan à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, jusqu'à la Colombie-Britannique à l'extrême nord de l'Amérique du Nord. Et c'est le génie de Lévi-Strauss.
T'es allé dans ces points-là, toi ?
En pensée, souvent. Mais par corps, jamais. Bon, on passe par des récits. Tout homme fait des récits. On passe nos vies à faire des récits. On a commencé, mon frère et moi, lui venait de naître, moi j'avais 5 ans, et on s'est dit, mais il se passe un truc. Ce que racontent les adultes ne coïncide pas avec ce que nous ressentons. Mais en même temps, nos esprits sont à ce point molles et imparfaits que nous sommes infoutus de leur proposer, ou à tout le moins de nous proposer à nous-mêmes, une version qui soit plus satisfaisante. C'est-à-dire qui répondent aux deux conditions de tout récit. Un, conforme à la nature des choses, et deux, cohérente du point de vue de l'esprit. Mais le livre qu'on a fait ensemble il y a 3-4 ans, on aurait pu le faire à 15 et 10 ans. On avait une sorte d'ère narrative à nous, dans laquelle les adultes n'entraient pas, et dont nous avions la prétention qu'elle était beaucoup plus conforme, même si elle était maladroitement formulée, à la réalité que nous partagions avec les adultes, que ce que les adultes pouvaient penser de ce qui leur arrivait. Et la raison est toute simple, c'est pas parce qu'on avait un lobe supplémentaire à notre cerveau, mais parce qu'on était de ce temps-là et que les premiers signes du monde extérieur commençaient de nous atteindre. Que les gosses ont des antennes, qu'on percevait distinctement ces signes brouillés, ténus, intermittents, alors que les adultes, c'est ma dernière pédanterie, adulte, c'est ad ultima. Un adulte, il est fini, terminé. Il n'entend plus. Je le sais, je le suis. Bon, les adultes ne voyaient pas ces choses. Et donc, n'étaient pas, comme nous avons pu l'être, extrêmement inquiets et jaloux de comprendre un tout petit peu mieux ce qui se passait. Oh, il n'y a pas 36 manières d'y parvenir, on met en commun nos respectives ressources et on se dit, c'est ça ou c'est pas ça ? C'est eux qui ont raison ou c'est nous ? Et nous avons l'orgueil et la faiblesse de penser que c'est nous qui avons raison. Et au bout d'un certain temps, on avait déjà en gros la matière de ces entretiens qu'on s'est contenté de confier à un magnétophone et de porter, après avoir enlevé des passages qui n'avaient rien à y faire, à la presse. Voilà.
Tu es d'accord ?
Oui. Dans l'ensemble, oui, c'est plutôt sur le côté de...
Il y a quand même un truc, c'est que c'est après cette expérience-là que tout d'un coup, tu as écrit un roman.
Oui.
Il y a un, si je suis en vallon.
Oui, enfin, ça, c'est relativement autonome, je pense, par rapport à ça. Je crois quand même que dans ce que Pierre dit, il y a l'autre aspect mais dont il parle largement dans ses romans, c'est que ce qu'on a vécu était quand même et très singulier et très collectif. Et en tout cas, très collectif au sens où on est quand même dans les années, et là même François est de la même, dans lequel on a vu toute une génération passer dans les lycées. C'est-à-dire que on a encore eu des copains qui s'arrêtaient à 12 ans, 14 ans pour être apprenti. Ouais. Mais là, massivement, on a vu toute une génération qui se retrouvait plus avant que ses parents, entre guillemets, enfin en tout cas plus avant scolairement. Et donc il y avait une espèce de contradiction entre le principe d'autorité naturelle parentale, qui restait encore assez vigoureux dans ces années-là, et le principe de « mais de toute façon, j'en sais plus que toi ». Une des phrases sacrées de notre cher père, c'était « il y a longtemps que tu le sais ». Bon, évidemment, quand on a 12 ans, on n'a pas beaucoup de recul. Mais à part ça, je suis d'accord.
Dans dans les indiscrétions là, sur Pierre, donc il enseigne en collège, et il a toujours refusé de faire quoi que ce soit d'autre que d'avoir ses petits cinquièmes, ses quatrièmes. Et ses
troisième, François. Troisième. Les vieux du collège, c'est troisième. Il faut les supporter. Ouais.
Et une des choses qui est très étonnante, y compris peut-être même dans la façon dont se présente tout son travail, c'est qu'étant prof, on ne peut pas faire de la littérature. Enfin, en tout cas, lui n'arrive pas. Le jour où quand l'année scolaire se termine, c'est la Corrèze, c'est le retour comme ça dans son ancrage. Et là, pendant un mois, monsieur fait de la meule, de la soudure, et il touche de la ferraille. Il n'écrit pas une ligne. Après, il rentre au mois d'août à Paris. Et tous ses livres ont été écrits entre le 1er août et le 10 septembre, c'est-à-dire avec un sas d'un mois de silence par rapport à l'expérience d'enseigner qui est dans la parole. Et vous voyez, ce rapport à la parole qui m'est toujours fascinant, c'est le seul que je connais qui fait de la littérature orale. C'est-à-dire, à la limite, la seule différence dans ses livres, c'est que cette phrase courte, on dirait que fait violence à ta maîtrise du langage. Alors, bon, si je raconte ça, c'est pour... maintenant, il n'y a plus roman, il n'y a plus rien. Y a pas...
Roman, ce n'est pas moi, c'est Gallimard qui voulait mettre roman.
C'est quand tu fais de la sculpture, tes sculptures, elles sont composées, elles sont soudées, elles sont assemblées, ça représente un tout, chacune. Maintenant, les livres, il y a Fata Morgana, il y a les Verdiers, il y a toutes ces séries que tu fais avec des photographes, comme ça, chez le moindre petit éditeur de Corrèze qui te demande un truc, « Oh, on m'a demandé du papier !» Bon, et tu le fais, et tu ne te préoccupes pas de nous aider à construire le lien, tu ne te préoccupes pas de le construire comme un tout. Qu'est-ce que c'est pour toi la notion de tout en littérature?
C'est une question très grave, effectivement. C'est la question.
Des livres qui sont de plus en plus petits, comme Beckett.
C'est un article qui était paru dans une revue.